Radio Kapi.
Les informations, Baben Pongo Massimango.
La proposition de loi sur l'organisation du référendum adoptée mardi par l'Assemblée nationale poursuit son parcours au Sénat. Texte salutaire pour ses promoteurs, mais dénoncé par les opposants. Kassam Mzati nous parlera des principales innovations de ce texte et des causes de la tension qu'il suscite. L'adoption de ce texte, il en a aussi été question hier dans Dialogue entre Congolais. Vous suivrez les analyses des intervenants. Et puis c'est le jour J, le coup d'envoi de la phase finale de la Coupe du Monde de football. Ce sera tout à l'heure à 20h, heure de Kinshasa. Parmi les 48 pays participants, 10 sont africains, la RDC en fait partie. Dans ce journal, les particularités de l'édition de cette année. Bonjour, sachez d'abord que la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, lance officiellement tout à l'heure le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSPE au complexe scolaire, l'école Estomac, c'est dans la commune de Selimbao à Kinshasa. Cette épreuve certificative concerne les élèves de la 8e année de l'ensemble du pays. Parlons politique. Adoptée mardi par l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition, la proposition de loi sur l'organisation du référendum initiée par le député Paul Gaspard Ngondakoy poursuit désormais son parcours au Sénat, présenté par ses promoteurs comme un texte destiné à combler un vide juridique hérité de la transition. Cette réforme est dénoncée par les opposants comme une porte ouverte à un changement de la Constitution. Quelles sont alors les principales innovations apportées par cette loi et pourquoi suscite-t-elle autant de controverses? Éclairage avec Grâce Mzati, notre permanent au Parlement.
Pour son initiateur, cette proposition de loi vise avant tout à moderniser l'encadrement juridique du référendum en RDC. Jusqu'à présent, celui-ci est régi par une loi datant de 2005, adoptée durant la transition et jugée inadaptée aux réalités institutionnelles actuelles. Le nouveau texte précise les conditions de convocation du référendum, son organisation par la CENI ainsi que les règles de campagne, des dépouillements et des contentieux. Le texte prévoit qu'en cas de dysfonctionnement majeur des institutions, le président de la République peut mettre en place une commission chargée d'identifier les dispositions constitutionnelles jugées inadaptées. Si un changement est envisagé, un projet peut alors être soumis au Parlement réuni en assemblée constituante. Cette instance sera élargie aux députés provinciaux, gouverneurs et conseillers municipaux, en plus des sénateurs et députés nationaux. Ces projets de changement constitutionnel devraient être adoptés à la majorité des 3/5 avant d'être soumis au référendum. Pour la majorité, il s'agit simplement d'encadrer juridiquement un mécanisme prévu par la Constitution et de renforcer la démocratie directe. L'opposition, elle, estime que les textes accordent un rôle excessif au président de la République et pourraient faciliter un changement constitutionnel.
Les enfants reporters accompagnés par l'UNICEF ont porté la voix de leur père devant l'Assemblée nationale. C'est à l'occasion d'un plaidoyer organisé hier mercredi à Kinshasa en marge de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin. Ces jeunes ont interpellé les élus nationaux afin qu'ils accordent des budgets plus conséquents au secteur lié à la protection et au bien-être des enfants en RDC. Que retenir d'autre, Blaise Ndongala?
À la tribune de la chambre basse du Parlement, ces enfants ont tour à tour dressé un tableau préoccupant de la situation des enfants avant d'appeler à des actions urgentes. L'un d'eux a notamment révélé que près de 74% d'enfants vivent dans des ménages pauvres privés de leurs droits fondamentaux. Selon lui, ces conditions de vie précaires exposent les enfants à de nombreux risques, notamment les maladies et divers fléaux sociaux. Face à cette réalité alarmante, ces jeunes ambassadeurs ont exhorté les députés nationaux à agir en urgence en plein pour un meilleur accès à l'eau potable, à une éducation de qualité pour tous et à l'enregistrement systématique de chaque enfant à l'état civil. Les enfants reporters ont également insisté sur la nécessité du retour de la paix dans l'est du pays où plus de 3,3 millions d'enfants vivent dans des conditions extrêmement difficiles en raison de l'insécurité persistante. Le président de l'Assemblée nationale a salué le courage de ces enfants sous l'encadrement de l'UNICEF. Aimé Bogi a par ailleurs réaffirmé la volonté de l'institution parlementaire de s'impliquer davantage, notamment à travers les ministères concernés, dont ceux du genre, famille et enfants, de la jeunesse, de l'éducation nationale et des affaires sociales.
La RDC veut récupérer ses archives géologiques détenues par la Belgique. Justement, la mise en place d'une feuille de route destinée à assurer la digitalisation et la restitution progressive à la République démocratique du Congo des précieuses archives géologiques constituées au fil de plusieurs décennies de recherche et d'exploration. Cela a été le point principal au centre des échanges mardi à Bruxelles entre le ministre congolais des Mines et le responsable belge des archives géologiques relatives au sous-sol congolais, mais aussi avec les représentants de la Belgique et de l'Union européenne impliqués dans le financement et l'accompagnement de leur digitalisation. Pourquoi est-il important de récupérer ces archives? Ces éléments de réponse collectés par Alain Héron sont rendus par Benjamin Moudoumbi.
Pour le gouvernement congolais, ces données représentent un patrimoine scientifique stratégique. Leur restitution permettra aux géoscientifiques congolais de déposer d'informations fiables et de haute qualité afin d'améliorer la connaissance du potentiel minier national, de renforcer les capacités d'exploration, d'orienter les investissements et d'accélérer la découverte du nouveau gisement. Au-delà de la récupération progressive de données essentielles à la connaissance du sous-sol national, cette démarche marque une avancée significative dans les renforcement de la souveraineté géoscientifique de la RDC et dans la construction d'un secteur minier plus compétitif, mieux documenté et davantage attractif pour les investissements. À l'issue des travaux, les différentes parties ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route commune ainsi que de la mise en œuvre d'une task force chargée d'assurer les suivis et la mise en œuvre progressive des actions prioritaires.
Le regard du monde entier se tourne vers le Mexique, les États-Unis d'Amérique et le Canada. Ces trois pays accueillent en effet la phase finale de la Coupe du monde de football et cette grand-messe débute aujourd'hui jeudi à 20h heure de Kinshasa. Cette 23e édition a un caractère particulier, notamment en raison du nombre de pays participants. Ils sont 48 au total, soit 16 de plus que lors des précédentes éditions disputées entre 1988 et 2022. D'autres détails sur les particularités de cette grande fête de football mondial de cette année avec vous, Jean Gandou.
Au total, ces équipes regroupent 1248 joueurs et 104 matchs sont programmés tout au long de la compétition. Pour l'Afrique, c'est une avancée importante. Son quota passe de 5 à 10 équipes, soit le double. Cela offre plus de chances aux nations africaines de se mesurer au plus haut niveau mondial. Autre effet marquant, le retour de certaines sélections après une très longue période d'absence. La RDC et Haïti détiennent le record avec une dernière participation remontant à l'année 1974, soit 52 ans d'attente. L'Irak revient après 40 ans d'absence, l'Écosse et l'Autriche font leur retour après 28 ans, tandis que la Turquie retrouve la compétition après 24 ans. La deuxième particularité concerne le pays hôte. Pour la première fois, trois pays vont organiser ensemble le tournoi. Le Mexique, le Canada et les États-Unis d'Amérique. Parmi les innovations, on note également l'introduction des technologies modernes, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'arbitrage avec des ballons connectés permettant des décisions plus précises. Comme on peut le constater, au départ, 48 équipes prennent part à cette compétition avec des grandes ambitions. Mais une seule parviendra à franchir la ligne d'arrivée en tête et remporter le trophée. Cependant, pour certaines sélections, l'essentiel sera surtout de participer et de gagner en expérience. Conformément à l'esprit de Pierre de Coubertin, l'essentiel n'est pas de gagner, mais de participer.
Le réseau des ONG de défense de droits des déplacés internes en RDC, RODI RDC, appelle à la création urgente d'une commission nationale d'assistance aux déplacés internes en République démocratique du Congo. Cette commission, selon RODI RDC, sera un mécanisme institutionnel permanent chargé de coordonner, planifier et assurer l'assistance durable aux déplacés internes sur toute étendue du territoire national. Cet appel a été lancé lundi à travers un communiqué où RODI RDC exprime sa satisfaction pour l'assistance humanitaire récemment apportée à 2000 déplacés internes à Kalemie dans la province du Tanganyika par le gouvernement congolais. Le coordonnateur de RODI RDC rappelle que cette assistance, bien qu'importante et salutaire, ne représente qu'une infime partie des besoins humanitaires auxquels font face les déplacés internes en RDC. On écoute les explications de Stéphane Kwengo, joint par Alain Irung.
Les RODI RDC estiment que l'assistance aux déplacés internes ne doit plus être limitée à des interventions occasionnelles et sporadiques. Elle doit désormais être planifiée de manière stratégique, budgétisée dans les finances publiques nationales et provinciales, permanente et durable, et enfin coordonnée avec les partenaires humanitaires et les organisations de la société civile. Le RODI RDC encourage également le gouvernement de la République à renforcer les politiques publiques de prévention des déplacements forcés, de protection des populations civiles et de réinsertion socio-économique des déplacés internes afin de restaurer leur dignité et leurs droits fondamentaux. Enfin, le Rudi RDC appelle les partenaires techniques et financiers, les agences humanitaires nationales et internationales, ainsi que toutes les parties prenantes à soutenir les efforts de la RDC pour apporter une réponse structurelle et durable à la crise humanitaire des déplacés internes.
Direction Béni, dans le Nord Kivu, une jeune femme brise le stéréotype en se faisant une place dans un métier souvent dominé par les hommes. Sarah Bouyongue est peintre en bâtiment depuis 3 ans. Grâce à son courage et à son talent, elle s'est imposée comme une référence au point de faire face aujourd'hui à une forte demande. Sur les chantiers, elle manie et pinceaux et rouleaux avec assurance, prouvant que la compétence n'a pas de genre. Sarah lance également un appel aux jeunes filles, oser apprendre et exercer des métiers qui permettent de devenir autonome. Marc Marofimbo l'a rencontré en plein travail, son reportage.
Âgée de 20 ans, Sarah Bouyongue a terminé ses études secondaires, mais n'a pas pu aller à l'université faute de moyens. Déterminée à ne pas rester inactive, elle décide de se former en petit en bâtiment. Pour elle, c'est un métier digne, capable de lui permettre de gagner sa vie et de devenir autonome.
J'ai 3 ans, plus une année de pratique. J'aime ça bien errer parce que c'est mon boulot qui me satisfait. Je peux faire appel à toutes les filles qui peuvent faire la peinture. Donc, ne soyez pas d'ainsi. Nous trouvons au moins aussi dans la peinture.
Sur les chantiers, son talent et son courage ne passent pas inaperçus. Sarah s'impose peu à peu dans un domaine dominé par les hommes, inspirant respect et admiration autour d'elle. Pour Dadi Azor, un jeune de Beni, son parcours mérite d'être encouragé.
Je suis très fier de la dame. Il faut dire que des initiatives pareilles sortent de l'ordinaire. Les femmes qui veulent entreprendre dans d'autres choses, oui, nous encourageons. Ça sort de l'ordinaire. Des femmes pareilles méritent d'être encouragées, d'être soutenues, parce qu'effectivement, il faudrait avoir plus de 10 quand même. Et on va démystifier ce genre de travaux dont les gens pensent que seuls les hommes pouvaient les faire.
Issue d'une famille de 5 enfants, Sarah Bouyongue vient en aide aujourd'hui à ses parents, notamment pour la scolarisation de ses frères et sœurs. Un engagement qui renforce sa détermination à réussir. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À Kinshasa, le métier de vannerie, communément appelé en lingala Mosala Kekele, aussi actuellement entre tradition et modernité, longtemps considéré comme un savoir-faire ancestral, cet artisanat se heurte aujourd'hui à de grandes difficultés d'approvisionnement en matières premières, entre autres en lianes naturelles, en raffia et en bambou. Les artisans doivent parcourir des kilomètres à travers d'autres provinces de la RDC, parfois au péril de leur santé, pour s'approvisionner. Cet art bénéficie d'une appréciation croissante de la population urbaine, avec une clientèle variée. C'est un reportage sinistre et Forain Paca.
Dans la commune de Limité, à la 7e rue Place Commerciale, l'exposition de paniers tressés en liane, des chaises en rotin servant parfois lors de mariages coutumiers et d'objets décoratifs en fibres naturelles raconte une histoire bien précise. Mais derrière l'esthétique et l'authenticité de ce produit, les vanniers affrontent une triste réalité, la difficulté d'obtenir des matières premières nécessaires au tissage. Un artisan rencontré témoigne.
Les lianes utilisées sont naturelles et proviennent dans d'autres provinces du pays. Ces déplacements nous épuisent, nous exposent à des risques et fragilise la rentabilité de nos produits, pourtant symboles culturels et identitaires.
Néanmoins, ces obstacles n'empêchent pas la population urbaine d'apprécier et d'acheter ces objets, qu'ils soient en raffia, en liane ou en bambou. Tout dépend de l'usage. Une cliente,
hormis l'utilisation de ces objets pour les cérémonies des mariages coutumiers, je les apprécie beaucoup, peu importe les modèles en nappe, panier ou sous-plat traditionnel. Chaque confection faite de ces matières naturelles m'attire. Ils symbolisent notre culture et les coûts se négocient toujours avant l'achat car les artisans les prennent dans les fins fonds des provinces du Congo.
Face à ces défis, les artisans lancent un cri d'alarme et appellent à un soutien institutionnel pour préserver et valoriser ces patrimoines culturels.
Dans la province du Maniema, la société civile Force Vive de Lubutu alerte sur la consommation excessive du produit pharmaceutique Tramadol chez les jeunes. Selon cette structure citoyenne, certains jeunes consomment jusqu'à 10 à 12 capsules en une seule prise. Une pratique dangereuse qui entraîne, selon elle, notamment l'ivresse publique, des comportements violents, des accidents et des troubles psychiques. À cela s'ajoute l'association avec le chanvre et des boissons fortement alcoolisées, ce qui aggrave davantage les effets sur la santé. Face à cette situation, la société civile tire la sonnette d'alarme et comme une dérive inquiétante pour la jeunesse locale. Jean-Pierre Moutoro Mumbere est joint par Florence Kizalunga.
La société civile Force Vive de Lubutu dénonce et alerte sur l'ensemble de notre pays, la République démocratique du Congo, d'Imanyema et de Lubutu en particulier, de la prise extensive des produits médicaux dénommés Tramadol par les jeunes joueurs, montards et autres. Chose qui crée une déstabilisation psychique les insultes, les bagarres et le manque de contrôle à l'égard des autorités compétentes, parents et autres. Alors notre souci citoyen constante avec Amertume qui est, si cette histoire continue sans une mesure de précaution, nous risquons de fabriquer des enfants qui seront des enfants de la rue, des traumatiques psychiques et autres. C'est pour cette raison, recommandons aux autorités compétentes, chacun à ce qui les concerne, de prendre des mesures adéquates. D'abord en fermant toutes les maisons dénommées ghettos, chose qui ajoute encore beaucoup plus l'exagération de l'ivresse à ceux-là qui prennent aussi les boissons dénommées Zododo à haut niveau de pourcentage, mais également ce qui crée beaucoup plus une folie à regard de nos jeunes frères et sœurs qui se déambulent sur l'ensemble de notre territoire.
Actualité internationale.
Des frappes israéliennes sur la ville de Tyr dans le sud du Liban ont fait au moins 11 morts mardi. Ces derniers événements du conflit armé entre le Hezbollah et Israël sur le territoire libanais ont poussé les autorités à faire évacuer le quartier chrétien. Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que la diplomatie américaine menait les derniers efforts en vue de la conclusion d'un accord avec l'Iran.
L'invité.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi portant organisation de référendum à RDC, c'était mardi. Initié par le député Paul Gaspard Ngondakoy, le texte a été approuvé par 348 députés sur 351 votants, à l'absence des élus de l'opposition qui ont décidé de boycotter les travaux, dénonçant un coup d'État institutionnel. Les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier ont analysé l'adoption par l'Assemblée de cette proposition de loi. On nous écoute au micro de Guy Matin.
Patrick Matata Makalamba, vous êtes professeur et député national élu de la ville de Kisangani, de la province de la Tshopo. Vous êtes également cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Quel sens vous donnez à cet acte que vient de poser l'Assemblée nationale à travers l'adoption de cette proposition de loi sur l'organisation du référendum en RDC?
Nous sommes en train de connaître ici une consolidation de la démocratie. Ça va de soi parce que les partis majoritaires ou les partis de tête de file de la majorité actuelle s'appellent l'Union pour la démocratie et le progrès social. Notre initiateur, le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, avait bien dit lorsque l'UDPS sera au pouvoir, l'UDPS prendra les précautions nécessaires pour avoir une constitution qui est adaptée aux conditions, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la dite constitution, dans son article 5, l'article constitutionnel de 2006, dans son article 5, dispose exactement ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. L'alinéa 3 dit, la loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Donc, en adoptant cette proposition de loi, l'Assemblée nationale ne fait qu'appliquer une disposition qui existe déjà dans la constitution en vigueur. Donc, le fait de remettre le pouvoir au peuple, c'est de vouloir effectivement consolider la démocratie. C'est l'essence que nous accordons à la présente proposition de loi ou à la présente loi à venir.
Alors, après cette adoption à l'Assemblée nationale, peut-on dire que les dés sont jetés, qu'on est maintenant dans une démarche qui vise à doter les pays d'une nouvelle constitution?
Cela est une possibilité, c'est pas l'objectif majeur de la présente loi. La loi vient combler un déficit. On a déjà pris en 2006 la loi pour organiser les élections. Il fallait également prendre une loi pour organiser le référendum. C'est ce qu'on est en train de faire. Et mais seulement dans les matières à prendre, il y a cette ouverture, si le peuple le veut bien. Et vous voyez, le référendum, c'est effectivement le peuple, c'est les souverains primaires. Tous les démocrates ne vont pas refuser la consultation du peuple. Consulter le peuple, c'est effectivement ça, la démocratie.
Merci, Emile Hassani. Vous êtes député national élu de Kindu sous la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa Matete. Que pensez-vous de l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi sur l'organisation du référendum en RDC?
Pour nous, au LGD, en tant que parti politique, les matières relatives à l'organisation du référendum n'étaient pas fixées. Et que nous sommes d'accord, l'honnêteté scientifique l'oblige, et il fallait doter les pays d'un texte juridique pour combler ces vides-là. Mais malheureusement, il s'observe que la procédure suivie et son aboutissement sont anticonstitutionnels.
Mais qu'est-ce qui vous gêne exactement?
Il s'agit des dispositions anticonstitutionnelles. J'ai cité la première disposition. La deuxième disposition, on pouvait lire les articles 41, 42, 43, 44. Et là, c'est clair. On prévoit les changements de la Constitution. Donc, une loi ordinaire qui prévoit que, à travers elle, on peut changer la Constitution. C'est ça qui est dû. C'est ça l'économie générale. Et là, vous comprenez que nous quittons pratiquement les sphères de la Constitution. Nous devenons dans un terrain de non-droit.
Merci, Alidor Chibanda. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale IPEN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. En quoi cette proposition de loi viole l'actuelle Constitution?
Mais quand elle dit déjà que on va aller au référendum sur les matières
non prévues,
comment la Constitution a prévu les matières? Le système juridique est clair dans le cadre constitutionnel. Il y a adduction du territoire ou déplacement de la capitale ou en cas de révision de la Constitution. Mais vous ajoutez d'autres matières qui ne sont pas prévues. Vous n'êtes plus dans la Constitution. La Constitution cesse en ce moment-là d'être la loi au-dessus de toutes les lois. Elle devient une loi qui peut être révisée même par un acte réglementaire. Nous sommes, constitutionnellement parlant, avec cette proposition de loi, dans ce qu'on appelle la fraude à la Constitution.
Ah, déjà, on peut parler de la fraude.
Mais oui,
tentative,
il y a la fraude.
Tentative de fraude.
Non, non. Le principe est clair, la fraude à la Constitution. On donne l'impression d'avoir respecté la forme, d'avoir respecté la lettre, mais le fond de la Constitution est déjà éclaté.
Vous pouvez suivre l'intégralité de ce numéro Dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Fin de ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mise en onde par André Mongou. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne journée.